France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Poulet d'Achary, du nom de cet adjoint au maire de Toulon, retrouvé mort à la fin de l'été 1995. Au printemps de cette année-là, quelques semaines après une élection présidentielle qui propulse Jean-Marie Le Pen au-delà des 15%, trois villes du Sud tombent dans l'escarcelle du parti d'extrême droite lors des municipales. Parmi elles, Toulon, 16e ville de France, avec plus de 160 000 habitants, elle est aussi son premier port militaire. Toulon, où l'exemple peut être paroxystique du clientélisme en politique. Du pain béni pour le FN qui remporte la mairie le 18 juin 1995 grâce à Jean-Marie Le Chevalier, grâce surtout à Jean-Claude Poulet d'Achary, le stratège politique, l'artisan de cette victoire. Mais il ne savourera cette conquête que quelques semaines. Deux mois et demi plus tard, en effet, il est retrouvé mort dans l'entrée de son immeuble. Crime politique, peut-être. Le FN était assez mal à l'aise face à la vie privée de la victime, homosexuelle notoire, aux mœurs très éloignées de ce que prône le Front en public. Ce qui ne suffit pas à le désigner comme commanditaire d'un meurtre, bien sûr. Mais restent les zones d'ombre. Notre invité aujourd'hui est Romain Rosseau, rédacteur en chef du trimestriel politique L'Hémicycle. Il couvrait le Front National pour le compte de l'Express dans les années 90. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Toulon, 1er septembre 1995, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, ta hallé, costume kaki et cravate jaune, vient d'arriver, triomphant, dans la ville portuaire. Son parti y organise cette année-là son université d'été. Il s'agit de célébrer les récentes victoires du Front aux élections municipales. En particulier ici, à Toulon, une grande première pour la formation d'extrême droite, le FN gère désormais une ville de plus de 100 000 habitants. Mais Jean-Marie Le Pen estime qu'on lui gâche la fête.
Préalablement, je voudrais dire qu'il n'y a pas une seule grande manifestation du Front National qui ne soit en effet troublée par une provocation ou par un crime. Ceci devient désormais une règle dans la vie de notre mouvement. Nous sommes victimes de ce genre d'action dont certaines revêtent...
Vous pensez qu'il y a une relation
un
directe
caractère... Écoutez, je le constate.
Alors que s'ouvre l'université d'été du FN, son patron aborde l'événement sur le mode complotiste. On chercherait par tous les moyens à nuire à son parti. Et cette fin d'été 95 ne ferait pas exception. La mairie frontiste vient, il est vrai, de connaître un drame. Deux jours auparavant, le 29 août, au petit matin, le corps de Jean-Claude Poulet d'Achary, 46 ans, est retrouvé sans vie, la tête ensanglantée. Le plus proche collaborateur du maire vit, gît au rez-de-chaussée de son immeuble. L'affaire éclipse les débats à l'ordre du jour de la grand-messe d'extrême droite. Balayer les deux grandes thématiques imaginées par les cadres du Front, une politique de la cité et la civilisation de la vigne et du blé, pire encore, les journalistes se focalisent sur ce meurtre mystérieux plutôt que de relier le discours mitonné par le chef. Deux points, ouvrez les guillemets, le FN est l'alternative du système. Un FN que le destin appelle, assure Jean-Marie Le Pen à la tribune du Palais des Congrès de Toulon, a de hautes responsabilités. Bien. Mais au lieu de commenter les chances de succès de son parti aux élections législatives, annoncées pour 1998, au lieu de se réjouir de son score en hausse, 15,35% à la présidentielle, qui a eu lieu moins de 4 mois plus tôt, Jean-Marie Le Pen doit répondre aux questions sur la mort de Poulet d'Achary.
Je crois que le crime ne fait pas de doute. Et je pense que ce crime est d'origine politique. Mais comment s'en étonner quand on sait que des partis politiques, des personnalités politiques, des groupuscules politiques appellent constamment à la haine et à la vengeance contre le Front National et contre ses militants.
Donc ce n'est pas une affaire d'ordre privé, selon vous.
Mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas.
On ne prête qu'aux riches. Dans le Var, sur cette terre où les assassinats d'élus ne sont pas si rares, le crime politique est toujours la première option retenue. Souvenons-nous de l'exécution d'une balle dans la tête de la députée Yann Piat, moins de 18 mois plus tôt, en février 94, par deux motards. Ou 8 ans auparavant, en 86, sur le même mode opératoire, la mort du premier adjoint au maire de la Seyne-sur-Mer. Ces deux assassinats sont dans toutes les mémoires. Et c'est aussi l'opinion du maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevalier, qui fait aussitôt savoir que la victime faisait l'objet de menaces régulières. Elle avait même déjà été agressée 3 fois. Selon Jean-Marie Le Chevalier, ce n'est que l'effrayant train-train des élus sudistes du Front National. Lui-même, comme sa femme, recevrait également, et très souvent, des avertissements inquiétants. Dans le contexte politique toulonnais très tendu, ses soupçons n'ont rien de farfelu. Jean-Marie Le Chevalier, qui plus est, se montre précis sur les pistes à lancer pour retrouver les responsables de la mort de son adjoint à la communication, son « éminence grise », dit-on dans les couloirs de l'hôtel de ville. Le Chevalier soupçonne son prédécesseur, François Trucy, et l'un de ses bras droits, Daniel Colin. Un audit de la gestion municipale précédant l'arrivée du Front se montrerait ravageur avec ces deux élus du Parti Républicain. Et c'est justement Poulet Dachary qui détiendrait les conclusions de cet audit. Les preuves manquent, mais la piste politique reste la piste privilégiée par les enquêteurs, en dépit d'autres rumeurs qui concerneraient, elles, la vie privée de la victime, et que l'état-major du FN essaye de balayer. Sa vie privée? Il n'en avait pas. Il travaillait tout le temps, assure Jean-Marie Le Chevalier. Bruno Maigret, alors numéro 2 du Front National, tente de discréditer celles et ceux qui évoquent les jardins secrets de Jean-Claude Poulet-Dachary.
Monsieur Poulet-Dachary était un militant de grande qualité, de grande rigueur. Sa vie privée ne regarde que lui. Et au moment où il est mort, je trouve particulièrement malséant de chercher à la mettre sur la scène publique.
Jean-Marie Le Pen, lui, se montre plus précis. Tonnant qu'il n'y a pas de surveillance des braguettes au Front National, il prend la rumeur à contre-pied dans son discours d'ouverture de l'université d'été du FN.
Et je suis tout à fait étonné de voir qu'on soulève une suspicion d'homosexualité à l'égard de M. Poulet-Dachary, alors que je croyais que dans la Ve République décadente, c'était là un signe de vertu et d'élite tout à fait remarquable. N'aime pas beaucoup ceux qui s'attaquent à la réputation des morts. Il y a d'ailleurs un délit dans notre code pénal qui s'appelle l'injure à la mémoire des morts. Et je pense que la famille de M. Poulet-Dachary pourra demander compte à ces diffamateurs de ce qu'ils ont pu déclarer ou raconter.
Jean-Claude Poulet-Dachary, brillant communicant et fin stratège politique, ne s'est pas fait que des amis au sein de la section FN du Var. Débarqué sur cette terre sudiste à l'aube des années 90, il prend tout de suite en charge Jean-Marie Le Chevalier avec un objectif: conquérir le bloc de béton, ambiance architecture soviétique, qui fait office d'hôtel de ville à Toulon. Jean-Marie Le Chevalier, un homme venu de la droite, ancien directeur de cabinet de Jacques Dominati, secrétaire d'État rapatrié sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, a été parachuté là par Jean-Marie Le Pen. Avec le président du Front National, un lien fort s'est noué, et depuis longtemps. Et pour cause, c'est Jean-Marie Le Chevalier qui recueille toute la famille Le Pen après l'explosion d'une bombe devant son domicile en 76. Près de 20 ans plus tard, c'est donc lui, Jean-Marie Le Chevalier, que Jean-Marie Le Pen désigne pour remplacer Yann Piat, pas encore assassiné, mais qui vient d'abandonner le FN pour courir les élections sous les couleurs du Parti Républicain, dont est justement issu Jean-Marie Le Chevalier. Un petit tour de passe-passe illustrant la porosité ancienne dans le Sud entre les élus de la droite et ceux de l'extrême droite, comme un signe avant-coureur d'une époque qui arrive. Dans un climat politique baigné par la corruption, dans un contexte où la droite avance profondément divisée aux élections municipales et où le candidat socialiste local fait fi de la consigne « Front républicain » venu de Paris, le 18 juin 1995, Jean-Marie Le Chevalier remporte la mairie au terme d'une triangulaire, la droite traditionnelle étant rade à Toulon, le FN profite de l'aubaine. Jean-Marie Le Chevalier est également le seul candidat à avoir véritablement mené campagne. Avec une idéologie clamée haut et fort, le nationalisme, et sa traduction programmatique, la préférence nationale. Et puis, il déroule un discours s'adaptant à toute la clientèle, sauf aux immigrés des centres-villes historiques, bouc émissaire universel. Jean-Claude Poulet-Dachary est le chef d'orchestre de cette campagne efficace. Il fait quadriller la ville par des militants qui inondent les rues de tracts à la gloire de Le Chevalier. son talent politique est reconnu, n'en a-t-il pas fait la preuve par la victoire ? Ses mœurs, en revanche, font jaser. Ses détracteurs l'ont dénommé Poulette, parce qu'il aime les hommes et qu'il ne s'en cache pas. Deux responsables historiques du FN Varois mènent l'enquête à son sujet d'ailleurs, et plusieurs jeunes militants rapportent ce qu'ils appellent des propositions malsaines de la part de Poulet Dachary. Fin 94, ils remettent à Jean-Marie Le Pen un rapport garni de témoignages. Mais le président du Front National n'en tient pas compte. Non, il conforte Poulet Dachary dans son rôle de chef de la campagne municipale à Toulon. Mais c'est ainsi que l'un des auteurs de ces alertes, le docteur Lefebvre, peut entonner l'air de « Je vous l'avais bien dit » au lendemain du meurtre.
On n'avait pas besoin de ça au Front National. Et j'en suis d'autant plus marri que, justement, c'était prévisible depuis 6 mois. Et j'ai encore tout récemment écrit une lettre à Jean-Marie Le Pen en lui disant que s'il arrive quelque chose de scandaleux au Front National dans le Var, ce sera certainement du fait de M. Poulet Dachary.
Qui est donc au fond ce Jean-Claude Poulet Dachary ? Cet homme toujours tiré à quatre épingles avec son air chic presque british. Cet homme par lequel le scandale ne pouvait manquer d'arriver. Son parcours est, il faut le dire, assez singulier. Il naît le 12 avril 1949 dans le 16e arrondissement de Paris. Il effectue toute sa scolarité au sein de l'institution Guynemer de Compiègne, où une messe est célébrée chaque semaine. Les week-ends, il réside chez sa tante, rue Saint-Lazare à Paris. Ses parents, divorcés, ne s'occupent pas de lui. La mère, artiste lyrique, a trop à faire avec ses représentations à l'opéra comique. Le père, lui, est producteur de radio à RTL et occupe tout son temps à monter des émissions de variété avec les vedettes du moment, Bardot, Mécaud, Montand. Après son lycée, Jean-Claude intègre une prépa à Sciences Po et rejoint au même moment l'Action française. Le jeune homme s'affirme maurassien, mais il ne se lance pas en politique. En 1970, il rejoint le séminaire de la Fraternité Saint-Pie-X à Écône, en Suisse. Dans cette institution dirigée par Mgr Lefebvre, évêque intégriste bien connu, il porte la soutane et se fait appeler par ses amis parisiens « Monsieur l'abbé ». Mais il en est viré 5 ans plus tard dans un parfum de scandale. L'un de ses jeunes camarades de séminaire confesse une relation homosexuelle avec « Monsieur l'abbé ». En 1975, Jean-Claude Dachary opère un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle. Après le séminaire, il intègre la Légion étrangère sous le nom d'emprunt de Jérôme Pelot ou Pelos. Il y restera 15 ans, obtenant le grade de sergent, puis de sergent-chef. Mais ça n'est pas sur les champs de bataille qu'il s'illustre, comme le rapportera faussement Jean-Marie Le Pen lors de son hommage funèbre. Non, Jean-Claude Poulet Dachary est un homme de l'administration. Il œuvre dans les bureaux de Mururoa jusqu'à Mayotte. Il sera aussi, à son retour dans l'Hexagone, à Aubagne, le rédacteur en chef de Képi Blanc, le mensuel des légionnaires. Maurassien, catholique traditionnaliste et légionnaire, mais pas facho pour un sou. C'est en tout cas ce qu'affirme sa sœur Martine dans l'émission « Faites entrer l'accusé ».
Votre frère était un élu du Front National et puis un élu très actif. Est-ce que c'était ce qu'on appelle un facho ?
Mais absolument pas. Mais moi, mon frère n'était pas un facho. Moi, je sais qu'on l'a beaucoup sali, on l'a même traîné dans la boue. Pour moi, c'était un vieux garçon. C'est-à-dire un garçon qui a toujours été dans les livres quand il était petit, puisqu'il était passionné d'histoire, il était passionné de plein de choses. Au séminaire, pour moi, c'était à nouveau bon.
La preuve de son désintérêt pour la sexualité, quoi. Le séminaire.
Mais je ne sais pas si ce mot se dit, mais il y a homophobe, qui veut dire homophobe, c'est celui qui n'aime pas son semblable, je crois. Mmh. Moi, je dis qu'il était homophile. Je pense que c'est le contraire.
Il aimait les hommes, mais pour vous, ça n'allait pas jusqu'à la sexualité.
Ça ne veut pas dire homosexuel. Si vous vivez en vie communauté d'hommes, il vaut mieux quand même être homophile. Enfin, il vaut mieux aimer ses semblables. 15 ans de Légion, 5 ans de séminaire, si vous n'aimez pas la vie de garçon, il vaut mieux faire autre chose.
Pas facho, pas homo. Comme Jean-Marie Le Chevalier, Martine Poulet-Dachary veut entraîner la police sur l'hypothèse du crime politique. Durant les 6 mois qui suivent la découverte du corps, les enquêteurs multiplient les interrogatoires, plus de 250. Mais aucun élément probant n'émerge. Aujourd'hui, l'affaire Poulet d'Achary.
France Inter.
Le Front est donc national. Le Front est donc national. Le Front est donc national.
Affaire sensible.
Suite de l'actualité avec l'enquête sur le meurtre de M. Poulet d'Achary, le bras droit du maire de Toulon, M. Le Chevalier. Cinq personnes du Front National appartenant au service d'ordre du parti ont été placées en garde à vue, puis relâchées. Michel Darmon, Jean-François Chevalier.
L'homme barbu accompagné d'un policier est le chauffeur de Jean-Marie Le Chevalier. À l'intérieur du poste de police se trouvent déjà quatre autres membres du service de protection rapprochée du maire de Toulon. Au cours des perquisitions, les policiers du SRPJ ont saisi ce matin trois armes automatiques et une carabine. Ces cinq militants du Front National sont actuellement en garde à vue. Sur commission rogatoire du juge Tournier, il s'agit là des premières interpellations dans le cadre de l'enquête sur la mort de Jean-Claude Poulet d'Achary, le directeur de cabinet de Jean-Marie Le Chevalier. Après les milieux homosexuels, la piste s'orienterait vers le Front National où Poulet d'Achary, souvent contesté pour ses méthodes autoritaires et sa vie privée, n'avait pas que des amis.
Enfin, l'enquête bouge. En décembre 1995, après 6 mois de recherches infructueuses, notamment dans l'ordinateur de Poulet d'Achary à la mairie, ordinateur protégé par le mot de passe Moras, ça ne s'en vante pas, les policiers explorent un nouveau postulat. Si Jean-Claude Poulet d'Achary avait été victime d'une vengeance orchestrée au sein même du FN, un journaliste de l'événement de jeudi parle même d'une huile des longs couteaux. Après la victoire au municipal, Poulet d'Achary serait devenu gênant en raison de sa vie privée. Et il aurait été éliminé par une équipe missionnée par Jean-Marie Le Chevalier lui-même. Le maire de Toulon, par ailleurs sous le coup d'une procédure d'annulation de son élection, crie à la machination. En tout cas, l'arrestation des cinq hommes de main le met en rage. Il dénonce, je le cite, « la coalition de politiciens corrompus, de magistrats aux ordres, de policiers serviles et de journalistes menteurs qui mettent gravement en danger les valeurs de la démocratie. » Trois des cinq hommes seront condamnés pour détention d'armes retrouvées chez eux lors des perquisitions. Mais rien ne prouve leur implication dans la mort de Poulet d'Achary. Et donc, l'enquête s'enlise de nouveau. 4 années passent, sans fait nouveau. Jusqu'à ce mardi 14 septembre 1999, le jour où les gendarmes de Toulon annoncent la mise en examen d'un homme.
C'est un homme de 30 ans, Jean-Marc Petrov, présenté comme un marginal, hyper violent, bien connu dans le milieu homosexuel, qui aurait avoué dans un premier temps être à l'origine de la mort de la jeune mère et même d'avoir eu avec lui des relations suivies et d'être rémunéré pour cela. Mais aujourd'hui, par la voix de son avocate, il nie tout.
Donc il a été mis en examen suite à une enquête effectuée à témoignage de deux personnes qui peuvent l'avoir mis en cause.
Est-ce qu'il reconnaît les faits ?
Non, non, il les nie de manière catégorique.
Est-ce qu'il dispose d'un alibi ?
Oui. Alors il y a deux personnes qui ont témoigné en sa faveur et qui affirment qu'il a passé donc la nuit avec elle. Et donc, au moment des faits, il n'aurait pas pu être chez M. Poulet d'Achary.
Les forces de police tiennent enfin un coupable au profil idéal. Jean-Marc Petrov, 37 ans au moment de cette mise en examen, avoue qu'il connaît la victime, à qui il offrait certains soirs quelques caresses contre un peu d'argent. Autrement dit, un amant occasionnel est tarifé. Il reconnaît également avoir croisé Poulet d'Achary le soir de sa mort. Et quand il confesse l'avoir poussé au-dessus de la rambarde de l'escalier de son immeuble, il se rétracte aussitôt. Et il dégaine un alibi, il a passé la nuit avec deux copines, qui confirment. Mais le bonhomme a un pédigré chargé. Trop, d'ailleurs, pour que les gendarmes le lavent de tout soupçon, même s'il nie. En septembre 1999, Jean-Marc Petrov est déjà incarcéré à la prison Saint-Roch depuis plusieurs mois. Il a avoué, sans revenir sur ses déclarations cette fois, avoir tué un couple sans domicile qu'il hébergeait. Le 31 juillet 1998, il étrangle, puis découpe le couple à la hache. Et sa justification est laconique. « Des histoires d'alcooliques et de drogués », dit-il. Écroué, il révèle un autre crime. En 1995, il a tué un SDF de 50 coups de couteau dans un squat de la vieille ville. À partir de là, sa culpabilité dans l'affaire Poulet d'Achary n'est pas mise en doute. Ses démentis ne font pas le poids face à son passé de massacreur. Et puis il est accusé dans cette affaire par deux hommes, Christian et Patrick Guent. Ils sont frères, ces deux-là, et font tous les deux partie du département protection-sécurité, autrement dit le service d'ordre du FN. Le lendemain de la découverte du corps de Jean-Claude Poulet-Dachary, fin août 1995, ils décident de mener leur contre-enquête. Ils remontent le fil de la soirée de l'élu, vont poser quelques questions à l'Olympe, barguet du centre-ville où Poulet-Dachary a été aperçu vivant une dernière fois, puis planquent devant son immeuble du cours Lafayette. Quelques heures plus tard, leur attention est attirée par l'arrivée d'un homme sur un cyclo blanc. Ils le coincent, l'homme paniqué, les yeux hagards, raconteront les deux frères, ne leur dit qu'une seule chose. « De toute façon, c'est pas moi qui l'ai tué. » Un propos terriblement suspect pour les frères Guent, qui confient immédiatement leur découverte au maire Jean-Marie Le Chevalier, et qui témoigne plus tard d'en fait entrer l'accusé.
Et il nous dit, vous savez, les deux frères, moi, ça me convient pas du tout, on en reparlera. Bon, il était assez sec. Et c'est de là qu'il m'a dit, je te file un conseil, pense que je viens de t'embaucher toi et ton frère et pense à ta famille. Il m'a fait plus ou moins des menaces.
Ça ne nous regarde pas. C'est ainsi que le maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevalier, reçoit les conclusions de l'enquête parallèle des frères Guent. Bien. Les deux respectent la consigne de leur patron pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la donne change. D'abord, ils se sentent lésés au fil de la gestion municipale frontiste. Ils ont tout donné pour la victoire et ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur par le chevalier. Pire, dans une affaire de corruption qui menace la femme du maire, les frères Guent collaborent avec la justice. Leur voiture de fonction est retirée, assez pour les fâcher définitivement avec leur patron. Et quand ils reconnaissent, à la une de Varmatin, le visage de Jean-Marc Petroff, arrêté pour le massacre de deux SDF, ils décident de dire enfin ce qu'ils savent à la police.
Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever, je vous prie.
Le 6 avril 2001, Jean-Marie Le Chevalier écope d'un an de prison avec sursis et de 30 000 francs d'amende pour avoir empêché les frères Guent de témoigner. Le procès de Jean-Marc Petroff pour le meurtre de Jean-Claude Poulet-Dachary s'ouvre quant à lui le 13 décembre 2005 devant la cour d'assises du Var. L'homme ne risque finalement plus grand-chose, il a déjà été condamné deux fois à 20 ans de prison pour le meurtre du SDF en 95 et le massacre à la hache en 98. Au fil des audiences, la vérité judiciaire peine à émerger. Petroff clame toujours son innocence et les experts vont dans son sens. Première chose. Le crâne de Poulet-Dachary présenté en plus d'une blessure au front, sans doute liée à sa chute de trois étages. Une autre blessure, à l'arrière de la tête celle-là. Un élément qui accrédite la piste criminelle. Très vite, les enquêteurs ont vu dans le cadenas du cyclo de Petroff l'objet contondant à l'origine de cette blessure. Mais aucune trace d'ADN ne vient corroborer cette hypothèse. Autre élément en faveur de Petroff, l'analyse du bol alimentaire de la victime montre que la mort est survenue aux alentours de 4h du matin. Une heure à laquelle Petroff avait bien rejoint ses copines, elle l'assure sans ciller. L'avocat général requiert une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers. Mais ce n'est pas le jugement que rend le jury.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui à Draguignan avait lieu donc la suite du procès de Jean-Marc Petroff, accusé d'avoir assassiné Jean-Claude Poulet-Dachary en 1995. Et puis, nous venons de l'apprendre, il est acquitté. C'est bien cela, Francis Huss, c'est bien cela, hein?
Oui, c'est bien ça, Jean-Marie. Mais ici, l'acquittement ne constitue pas vraiment une surprise. On s'y attendait même, hein. Les doutes étaient présents tout au long de ces 4 jours d'audience, ces 4 jours de procès. Aucune preuve formelle n'a pu être établie à l'encontre de Jean-Marc Petroff.
Le procureur général d'Aix-en-Provence décide de faire appel. Un nouveau procès s'ouvre donc pour Jean-Marc Petroff à la fin de l'année 2006. Et les débats sont très différents. Les experts ne sont plus si sûrs d'eux au sujet de l'heure de la mort. De quoi ébranler l'alibi du suspect. Les deux jeunes femmes, qui assurent toujours que Petroff a passé la nuit chez elles, tremblent de peur à la barre. Elles racontent aussi que quelques jours avant ce nouveau procès, les frères Guent sont passés les voir. Histoire de leur mettre un petit coup de pression. Petroff est décidément un coupable trop idéal. Les tenants de cette hypothèse, les frères Guent, comme l'avocat général, ne veulent pas laisser s'échapper leur vérité. Et cette fois, ils ont gain de cause. Le verdict de ce procès en appel est très différent de ce qu'avait décidé la cour d'assises du Var un an plus tôt.
Et pour débuter ce journal, suite et fin du procès en appel à Aix-en-Provence de Jean-Marc Petroff, reconnu coupable du meurtre de Jean-Claude Poulet-Dachary, l'homme vient d'être condamné à 15 ans de prison.
Acquitté en première instance, condamné à 15 ans de réclusion criminelle en appel, avec ces deux verdicts opposés, difficile de lever définitivement le mystère sur la mort de Jean-Claude Poulet-Dachary. Si la piste politique a été définitivement écartée, peut-on être sûr de la culpabilité de Jean-Marc Petroff, qui purge toujours sa peine? La piste accidentelle est-elle vraiment crédible? Certains enquêteurs l'avaient bien souligné. La rambarde de la fameuse cage d'escalier arrive à peine à mi-cuisse d'un homme adulte. Fortement alcoolisé, Jean-Claude Poulet-Dachary aurait-il pu basculer seul dans le vide? Cette enquête, longue et tortueuse, s'inscrira comme un symbole de la gestion municipale du Front National à Toulon. Une gestion marquée par les coups d'éclat et les procédures judiciaires. Jean-Marie Le Chevalier n'aura pas sorti Toulon de son climat mafieux. Les victoires du Front de 1995 resteront dans la mémoire du parti comme un échec, l'illustration de l'incapacité du FN à gérer des communes. Sans Jean-Claude Poulet-Dachary, le FN toulonnais est perdu. La preuve. Aux élections municipales de 2001, Jean-Marie Le Chevalier est éliminé dès le premier tour avec moins de 8% des voix.
À voter.
À voter.
J'ai tambouriné, tambouriné au seuil de sa bonté. Judas m'a dormi et j'ai pris les verres anglais. Salmon essaie de jouer par millions. Salmon essaie tes avances. Ça me noue la sécheresse. Ça me noue la vaillance. Ou le dernier coquelicot. Décimé, décimé, des armées de répondeurs, occupés à se dire, mes naufrages au saut du lit. Salmon essai, nos héros préférés, salmon essai, nos absences. Sommes-nous de connivence ou le dernier coquelicot? Terre promise, redis-moi ton nom. Dis-moi en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les autres? Sommes-nous le souvenir? J'ai commandé, décommandé de mes yeux la prunelle. Balancé les jumelles pour ne garder que le flou. Seulement laisser les passions immortelles. Seulement laisser nos offenses. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la romance? Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la noblesse?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Poulet-Dachary. Notre invité, Romain Rosso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de l'Hémicycle, une revue trimestrielle consacrée à la politique. Hémicycle, Assemblée nationale, ça renvoie ça. Dans les années 90, vous étiez reporter et vous suiviez le Front National pour l'hebdomadaire L'Express. Vous en avez même commis un livre avec Michael Darmon, un livre que je tiens entre mes mains. L'après Le Pen, dans les coulisses du FN, paru en 1998 au Seuil. Alors une phrase qui est intéressante, on va y revenir à la fin. Là, vous dites pourtant, enfin la quatrième de coup, hein, elle dit pourtant l'après Le Pen est commencé. Ouais, mais c'est peut-être pas l'après Le Pen qu'on imaginait à l'époque par rapport à celui qui existe aujourd'hui. On va en parler, c'est intéressant. Quelle était l'ambiance de cette université d'été du FN, donc à la fin de l'été 95?
Je ne sais pas si je dois utiliser l'expression, elle était un peu folle, cette période. Le climat était délétère, vous l'avez raconté dans votre enquête, qui a réveillé chez moi pas mal de souvenirs. Puisque cette affaire de Poulet d'Achary a évidemment ce meurtre qui a eu lieu quelques jours, mais deux jours avant évidemment la tenue de cette première université d'été du Front National, dans une ville conquise par le Front National, ce qui était impensable quelques semaines plus tôt.
Sur une grande ville comme ça.
Dans une grande ville, premier port militaire français, vous l'avez rappelé, donc un symbole national du fait aussi que la présence militaire soit forte dans cette ville. Et le climat était évidemment très délétère. Il était très délétère parce que, vous l'avez rappelé aussi, le département lui-même était délétère. On était sur une terre délétère. On était dans une fédération du Front National, la fédération du Var. Vous l'avez dit aussi, qui elle-même était dans un état quand même assez de conflit. C'est une terre conflictuelle, vous l'avez rappelé. Du fait deux choses, je crois, du fait effectivement de la présence de Jean-Claude Poulet, enfin des mœurs de Jean-Claude Poulet d'Achary et de Jean-Marie Le Chevalier qui ne passait pas très bien, qui avait été parachuté, vous l'avez dit, en remplacement d'Yann Piat qui était parti au Parti Républicain. Et c'est vrai que, si je peux revenir un tout petit peu sur les conditions de l'élection, Jean-Marie Le Chevalier, comme les autres maires, élu à cette époque, Jacques Bompard et Daniel Simon-Pierry, donc l'un à Orange, l'autre à Marignane.
À Marignane,
non, tout le monde s'attendait à ce que Vitrolles tombe dans l'escarcelle de Bruno Maigret. Et comme toujours, ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et donc, c'est la ville d'à côté, Marignane, dont personne n'a parlé, qui est tombée alors qu'elle était...
La preuve, hein, vous oubliez.
Ouais, voilà. Et j'ajoute une quatrième ville qu'on a un peu oubliée.
Attendez, elle est où? Elle est toujours dans le
sud? Elle est toujours dans le sud, mais elle n'est pas en province. Elle n'est pas en Provence. C'est Nice.
Ah oui.
Puisque Jacques Perra avait quitté le Front National pour conquérir Nice. Rappelez-vous, il venait de le quitter quelques mois plus tôt, justement parce qu'il savait que l'étiquette Front National ne lui permettait pas de conquérir Nice. On l'a un peu oublié, or c'était sans doute la plus grande ville. Et le climat de l'époque était quand même celui-là, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à cette victoire, y compris les élus eux-mêmes. Jean-Marie Le Chevalier ne s'attendait... Il avait même prévu une semaine de vacances.
C'est dire.
Donc, avec son épouse, Sandrine, juste après le second tour. Et c'est vrai que dans son équipe, on raconte même, moi je me souviens très bien d'élus qui nous l'avaient raconté, c'est que l'élection, enfin la désignation des adjoints s'était faite à main levée. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune préparation particulière dans la gestion. Il y avait une préparation très savante, orchestrée par Jean-Claude Poulet d'Achary, de la campagne électorale, mais pas de la gestion.
Donc il y a un amateurisme dans la gestion.
Oui, bah comme vous savez, le Front National, c'est sans doute son principal plafond de verre. Il y a eu pendant très longtemps, jusqu'à ce que Marine Le Pen accède sans doute, enfin même au-delà que Jean-Marie Le Pen accède au second tour, je dirais dans les périodes toutes récentes que la diabolisation a vécu, je pense qu'elle a vraiment vécu lors de la dernière élection présidentielle, la toute dernière. Mais je pense que ça, c'est le premier plafond de verre. Le deuxième plafond de verre, c'est la crédibilité qu'il dure encore. Et je pense que cette époque de 1995 a marqué durablement les consciences à l'intérieur du Front National sur cette question de la gestion. Comment fait-on? Y est-on prêt? Et à l'époque, pas du tout. Je rappelle que les trois maires qu'on vient d'évoquer ont été tous élus au cours d'une triangulaire. C'est-à-dire que les opposants, tantôt à droite, tantôt à gauche, s'étaient finalement détruits eux-mêmes il y avait des listes concurrentes dans chaque camp. C'est ça qui a permis l'élection des maires FN de l'époque.
Très bien. Mais quand vous dites l'atmosphère était délétère, elle est délétère pour quelle raison principale? Il y a plusieurs raisons. Là. Qu'est-ce qui fait que c'est délétère?
Alors, il y en a plusieurs, oui. La première, si on reste sur la Fédération du Var, et puis peut-être qu'on pourra parler de la dimension nationale, c'est que le Front a tout lieu de se réjouir, évidemment, de cette victoire de cette grande ville. Mais, en réalité, le feu couve au sein de la Fédération depuis plusieurs mois. Parce que, vous l'avez rappelé, Jean-Claude Poulet-Dachary ne passe pas. Les mœurs définies...
Attendez, soyons clairs. Ouais. Parce qu'il est homosexuel.
Parce qu'il est homosexuel.
Alors, vous dites les mœurs, parce que dans leur esprit, ce sont les mœurs. C'est juste une identité sexuelle. Quoi.
Absolument.
Mais pour eux, c'est des mœurs. Hein.
Oui, oui, absolument. Je reprends, pas, oui, sans doute, leur façon de voir les choses.
Oui.
Il est homosexuel et il est tenu pour prosélyte.
En plus.
Voilà, et c'est ça qui ne passe pas, au fond, principalement.
Et auprès de le chevalier, parce qu'auprès de Jean-Marie Le Pen, alors peut-être qu'il a un discours public et qu'il n'en pense pas moins, mais lui dit non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il le dit, Jean-Marie Le Pen.
Alors, Jean-Marie Le Pen fait mine de découvrir l'homosexualité de Jean-Claude Pouy-Déchary, mais vous l'avez rappelé, le rapport du docteur Lefebvre et de Jean-Jacques Gérardin, qu'on oublie de citer, il était membre du cabinet de Jean-Marie Le Pen, et il habitait dans le Sud. Et des ragots avaient commencé à remonter à Jean-Marie Le Pen depuis longtemps, à tel point que le docteur Lefebvre était monté le voir pour lui dire « ça ne passe pas ». Et Le Pen avait commandé ce rapport qu'il fait mine de découvrir. C'est lui-même qui l'avait commandé.
Ah, d'accord. Mais oui, double jeu, quoi.
Et donc, voilà. Et double donc, évidemment, donc, et tout le monde lui avait dit à l'époque « attention, un scandale arrivera ». Lequel, on ne sait pas, évidemment. Mais un scandale arrivera. Personne n'imaginait qu'il pourrait être tué, évidemment. Ou qu'il pourrait se tuer lui-même, puisque à l'époque, on hésite beaucoup. Moi, je me souviens tout à fait des lieux hein, pour m'y être rendu. Vous l'avez dit aussi.
La rambarde
est très, très basse.
Très basse. On peut tomber, n'importe qui peut tomber.
Je veux dire, même un enfant pourrait tomber. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'à 4h du matin, à Vinay, l'accident est possible, d'ailleurs. Ouais. Cet accident est examiné par la police criminelle de l'époque. Elle est même la première des causes qui est imaginée par la police de l'époque. Et donc, je reviens au climat. C'est évident qu'à ce moment-là, évidemment, la fête est gâchée, puisque Le Pen a enterré ce rapport. Il a considéré comme des ragots. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ce rapport avait révélé autre chose. Ah. C'est qu'il avait révélé que Jean-Marie Le Chevalier n'avait pas accompli son service militaire, ce qui localement ne se faisait pas quand on est maire quand on prétend être maire du premier port militaire de France. C'est vrai que ça ne passait pas, surtout auprès d'un certain nombre de militaires, d'anciens militaires qui pouvaient être membres du Front National de l'époque. Et donc c'est notamment cela que Le Pen enterre en réalité. Et tout éclate à l'occasion de cette université d'été, alors que le FN a montré sa capacité de nuisance. Il a réalisé 15% au plan national. Le Pen a fait 15% à la présidentielle. Les élections législatives lui donnent 15% pour la première fois et il gagne 3 villes. Et pourtant, c'est la catastrophe.
On y revient dans 3 minutes après Blur de Narcissiste.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played. World. Glorious world.
Affaires sensibles sur France Inter.
Romain Rosso, on en arrive à votre livre. Alors, un livre dont je parlais, qui s'appelle L'Après Le Pen, enquête dans les coulisses du FN. Ce livre a été écrit en 1998 par vous et notre confrère Michael Darmon. D'accord. Et dans Quatrième de couve, on lit officiellement, la succession de Le Pen n'est pas ouverte. Il aura 74 ans lors de la prochaine présidentielle en 2002. Alors, on n'imaginait pas que par cette présidentielle, il accéderait au second tour, ce fameux 21 avril. Et vous dites, pourtant, l'après Le Pen est commencé. Oui, mais l'après Le Pen, il a le physique et le visage de cet homme, Bruno Maigret.
Oui, à l'époque.
Et à l'époque dont on parle, 1995, le processus, il est parti déjà.
Absolument.
Donc c'est peut-être délétère aussi à l'intérieur du Front National par cette dissidence qui a rimé très vite avec violence.
J'allais y venir justement quand j'évoquais justement la dimension nationale. Un tout petit rappel encore électoral. Donc je le disais, le Pen, parce que c'est important, Le Pen obtient 15% des voix, donc ce qui correspond à 4 500 000 électeurs environ. Donc, il est considéré comme l'arbitre à l'époque entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, qui sont eux au second tour. Et pourtant, Jean-Marie Le Pen n'est pas satisfait.
Pourquoi ?
Il n'est pas satisfait parce que si on compare ce score par rapport à la présidentielle de 1998... Il ne gagne que 0,61% des voix.
Attendez, la présidentielle de 98...
Pardon, de 88, 1988, pardon.
Je comprends mieux.
Il ne progresse de moins de 1%.
Oui, c'est
ce qui fait 195 000 voix, ce qui est peu.
Donc il stagne sur 7 ans.
En réalité,
beaucoup, hein.
Il stagne. Il franchit la barre symbolique des 15%. Mmh. Mais dans les faits, quand on observe les résultats, il faut toujours en politique regarder les résultats électoraux en chiffres, en valeur absolue. Or, qui est le directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen à cette époque ? C'est Bruno Maigret. Bruno Maigret, qui a pris la délégation générale à la suite de la mort de l'ancien secrétaire général. Pardon, c'est un peu de la criminologie frontiste.
C'est bien de faire l'histoire d'un parti, ça met les idées en place.
Voilà, Jean-Pierre Stirbois, qui était secrétaire général du parti, décède, se tue en voiture en 1988. Il est remplacé par un jeune kiné qui s'appelle Karl Lang, dont on a beaucoup entendu après par la suite. Et Bruno Maigret, qui arrive à ce moment-là, qui est arrivé au Front National à ce moment-là, crée la délégation générale. Et Le Pen s'est toujours appuyé sur ces deux structures. La délégation générale s'occupe de la propagande, en gros, et des élections. Et le secrétaire général s'occupe des fédérations, voilà, pour faire vivre le mouvement. Voilà, donc. Et Bruno Maigret, qui est polytechnicien, qui vient du RPR, avec une bande d'autres venus de droite, en fait, et celui qui réussit le plus parce qu'il est organisé, parce qu'il a une ambition, parce que il n'a pas cette mentalité groupusculaire un peu foutraque de l'extrême droite. Il vient pas de ce milieu-là et il met un peu d'organisation, de rationalité au sein d'un parti qui en manque cruellement et qui en manque toujours encore. Et à l'époque, il progresse tellement que il a un peu toutes les mains un peu sur tout. Quoi. Finalement, il dépasse en réalité le poids de Karl. Or, Maigret est le directeur de campagne, donc il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, évidemment, à Jean-Marie Le Pen. Il y a un autre aspect, et donc il le fait savoir. Il le fait savoir dès le mois de juillet 1995, une université d'été du Front National de la Jeunesse, et où Le Pen parle d'éliminer les dissonances, alors qu'il vient d'avoir un succès électoral. Et pour comble de malchance, lors de cette université d'été dont on parle à Toulon, Karl Lang annonce qu'il se retire du secrétariat général. Pourquoi ? Parce qu'il en a marre, ça fait 7 ans qu'il fait ce boulot assez ingrat. Il a envie de revoir davantage sa famille, de s'investir à Lille, et il veut pas. Il décide d'arrêter. Or, il avait prévenu Le Pen. Le Pen comme d'habitude, avait enterré le dossier et Lang, qui en a marre, l'annonce publiquement. Donc, il met Le Pen devant le fait accompli, ce qu'il déteste.
Ouais.
Donc, et en réalité, pourquoi c'est important? C'est parce que ça ouvre la succession. Et c'est ça qui lui fait peur un peu à Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il va falloir qu'il trouve un successeur à Karl Lang. Mmh. Or, il a son candidat, qui s'appelle Serge Martinez à l'époque. Serge Martinez n'a pas de prétention politique. C'est un type qui a fait fortune dans l'informatique.
Donc c'est idéal, contrairement à Maigret.
Exactement.
Okay.
Donc je vois. C'est le personnage idéal. Il est très très. Et donc pendant toutes les périodes qui vont suivre, il va devoir nommer Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch qui lui ressemble, qui vient plus je dirais sans doute maurassien en réalité, très profondément, qui vient des catholiques traditionnels, qui est catholique traditionnaliste, mais qui a une envergure beaucoup plus importante que celle de Serge Martinez. Et en le nommant quelques mois plus tard, lors d'un conseil national, il ouvre de fait une succession qu'il ne veut pas voir si tôt.
D'où le malaise. Et ça crée aussi une certaine violence à la fois entre eux, et puis avec les journalistes, me disiez-vous.
Oui, c'est une période où vous parlez de climat délétère, c'est un climat violent d'une manière générale. La politique dans le Sud, à l'époque en particulier, dans le Var, était violente. Vous l'avez rappelé, l'assassinat de
Yann Pia, déjà. Ouais.
Vous avez rappelé aussi, il y avait eu l'incarcération quand même de l'ancien maire de Toulon, Maurice Arex, ce qui a permis au fond l'élection de Jean-Marie Le Chevalier. Il y a eu cette violence entre politiques, au sein du Front National aussi, parce que on a évoqué ces rapports, et avec les journalistes, parce que les militants du Front National de l'époque étaient élevés, j'allais dire, au lait, ils étaient biberonnés contre les journalistes, qui étaient évidemment ceux qui leur en voulaient, qui soi-disant étaient évidemment des militants antifascistes, alors qu'ils essayaient de faire simplement leur travail, ce que les faits ont fini par prouver, évidemment.
Alors, c'est Hubert Falco qui devient maire de Toulon après. Il sera réélu trois fois, et alors en avril dernier, il a été condamné pour détournement d'argent public. Le tribunal de Marseille a jugé qu'il avait totalement bafoué son devoir d'exemplarité. Toulon serait-elle une ville politiquement maudite?
Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Toulon.
Et si oui, pourquoi?
Les affaires sont sans doute différentes. Peut-être que... Honnêtement, je n'ai pas suivi, je ne saurais dire pourquoi cette ville, évidemment, c'est pas la seule ville d'ailleurs, où, d'une manière générale, c'est pas la seule ville où des affaires se déroulent. Le Sud reste le Sud, sans doute. Peut-être que au bout de trois mandats, Hubert Falco s'est laissé aller à des turpitudes qu'il n'aurait pas dû. À l'époque où il prend la succession, il est président du Conseil général du Var. Il apparaît comme un homme sérieux, clean. Il devient ministre plus tard, rappelez-vous. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Est-ce que le Sud reste le Sud? Non, mais vous êtes obligé de savoir tout, absolument tout, répondre à absolument toutes les questions, au cas où. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre d'affaires dans une même ville, on s'est dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est donc cette culture-là, peut-être politique, qui aboutit à ça? On a le droit de se poser la question.
Bien sûr, mais il y a d'autres villes.
En plus, il y en a d'autres, oui.
Pense qu'il y a d'autres villes. Je pense à Levallois-Perret, par exemple, où la famille, je dirais, Balkany, était élue et réélue malgré les affaires. Il y a là, pour moi, une incompréhension plutôt du côté des électeurs. Qui ne cesse de réélire des gens alors qu'ils ne devraient sans doute pas le faire.
Ils tirent pas les leçons, quoi. Qui était vraiment Jean-Marie Le Chevalier, mort en 2020, avec sa femme Sandrine? On les appelait les Ceausescu du Var.
Oui, c'est Serge Faubert, les maintenant du jeudi.
Serge Faubert. C'est too much ou ça correspond un peu?
Bon, c'est évidemment, l'allusion est un peu forte, évidemment, quand on connaît les Ceausescu. Mais c'est vrai qu'il régnait aussi à cette époque, si vous voulez, dans la psyché de Jean-Marie Le Chevalier, du fait de tout ce qu'on a un peu évoqué, il avait la crainte, il n'était pas sûr de lui. Du fait aussi de son élection à laquelle il ne s'attendait pas. Il n'était pas prêt à gérer. Et donc, il était toujours dans la crainte de complot contre lui. Et donc, il régnait aussi un peu d'une main de fer dans ce grand bâtiment qui était l'hôtel de ville de Toulon devant la rade. Il formait un couple assez fort. Beaucoup se moquaient, pour être franc, de son épouse Sandrine, qui accumulait les bévues, qui était Pour te dire, sur ce plan de la crédibilité qu'on évoquait, le chevalier n'était pas crédible. Et souvent, quand on n'est pas crédible, on se met des barrières.
Oui, on se met en position d'être critiqué, d'être raillé, d'être bien
voilà.
sûr.
Et c'est vrai que voilà, c'était en partie pour cette raison qu'on les surnommait ainsi.
Bien, l'après Le Pen, enquête dans les coulisses du FN, livre sorti il y a un peu plus de 20 ans maintenant, même plus que ça.
Ouais,
d'ailleurs. Mais c'est assez amusant de lire ce qu'on pouvait imaginer de l'avenir qu'on ne connaissait pas forcément. Et peut-être que vous n'imaginez pas le Front National d'aujourd'hui, qui s'appelle Rassemblement National, et malheureusement vous n'avez pas le temps de répondre à ce qui n'est pas une question d'ailleurs, c'est juste une observation, parce que c'est la fin du temps réglementaire. Merci infiniment, Romain Rosseau. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Poulet d'Achary, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.